Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
سنم آهوی سر کوی تو بودم روزی بیدارد احوال ما نمی پرچی چون روزی ارچان که تارا یار نو بهش یار منم یار ندیمیه تو بودم یک روزی سنه خدا فریاد رفت یه گلاست بر بندرم خدا فریاد Be hare la lesa remena mi o mi de tjon tobes tun parteka remena mi o mi de tjon pais jom hakenem رو تزه مستو امیده تر جان زمستون بار خوا رشمه نمیره امیده تر جان امیده تر جان هم به جا باید من کالزا میره خمیده تر جان او کباب بسته دل بانزازا میره خمیده تر جان الهی بسکیه خوکات داسته خمیده تر جان دبا تازه کار ربای خواسته امیده تر جان امیده تر جان امیده تر
Bonjour, c'est bien l'interview du jour sur Radio Diwa, la radio du Diwa, RDiwa. Donc vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Et bonjour Yannick. Et
bonjour Yves.
Merci de ce chant. Quel est-il, s'il te plaît ?
C'est un chant qui nous vient d'Iran, de la région du Mazandaran, cette région qui borde le sud de la mer Caspienne, entre jungle avec une montagne à 5600, les monts d'Herbrousse derrière, et donc la Caspienne. Donc une zone étonnamment humide de l'Iran, avec du désert tout autour, une sorte d'oasis. à la croisée, sur la route de la soie, à la croisée des chemins entre les invasions mongoles et les invasions de l'islam arabe au pays de Zaratoucht, du grand prophète.
Tu viens dans notre studio pour nous présenter une soirée qui aura lieu le 3 décembre à 20h30.
Mercredi prochain.
C'est mercredi.
Oui, oui.
À Andarta.
À Andarta, oui.
Et il s'agira du trio Tika.
C'est ça. Alors, c'est un concert en deux parties. La première partie commencera avec Gamal, donc le duo dont je fais partie, avec Cécile Pagès, qui habite à Saint-Julien-en-Quin. Donc, Gamal fera une première partie d'une heure, avec une partie de notre répertoire entre Syrie, Irak et Kurdistan iranien, avec des chants yézidis, des chants des premiers chrétiens. Et une entr'acte suivie de Tika, donc un trio iranien qui, pour la première fois, sort d'Iran pour venir en France en résidence d'artiste dans le Diwa.
Alors ce trio Tika, tu l'as rencontré lors de ton voyage en Iran, c'est ça ?
C'est ça, oui. Oui.
Alors, comment se passe pour des musiciens iraniens à venir en France, par exemple, ou en Occident, tout simplement, pour venir jouer ? Est-ce qu'il y a des embûches administratives, par exemple ?
Alors, du côté iranien, l'ouverture se fait. C'est une question d'urgence pour l'État iranien qui a très bien saisi le fait qu'avant une implosion, le pays doit s'ouvrir. Il est relativement simple pour des Iraniens de quitter l'Iran. Bon, notamment, il y en a beaucoup qui vont en Arménie ou en Turquie. C'est assez simple de quitter l'Iran. Et par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de rentrer sur le territoire dans Schengen, c'est une chose. Et la France, c'est le pays qui a le plus de difficultés à accepter des étrangers hors Schengen sur le territoire. C'est le pays où cela nécessite beaucoup de paperasse pour pouvoir rentrer en France.
Et c'est uniquement en France, ou peut-être pas autant, mais je veux dire, il y a d'autres pays d'Europe qui sont quand même plus ouverts. L'Allemagne, par exemple.
L'Allemagne est plus ouverte que la France.
Et qu'est-ce qui fait la différence, d'après toi, entre ces deux pays ?
Je sais pas, c'est une histoire de politique territoriale. À mon avis, hein, c'est juste une histoire comme ça, quoi. Et puis je pense qu'aussi au niveau démographique, l'Allemagne ayant des problèmes de démographie, vu qu'il n'y a pas beaucoup moins de naissances qu'en France, je pense qu'il est plus facile d'accueillir des travailleurs ou des étrangers sur le sol allemand plus qu'en France, quoi.
Voilà, on va revenir donc au trio Tika. Qui sont-ils alors, ces trois musiciens ? Est-ce que tu peux nous les présenter ?
Bien sûr. Alors, il y a mon grand ami, mais les trois sont mes grands amis. Hein. J'ai passé du temps avec eux, mais toujours avec eux, pendant un mois, et c'est vraiment des chouettes gars, quoi. Et donc, Maziar est chanteur. Il est considéré comme une des plus belles voix montantes d'Iran, à l'université de Téhéran, et il chante avec le cœur, il est vraiment très sensible, très délicat et avec une très belle voix. Et bon, la tessiture des chanteurs en Iran, c'est souvent ténor, donc il est plutôt ténor, et alors que moi je suis plutôt baryton. Et il y a Ali, donc Maziar Mohammadpour, qui chante et qui s'accompagne au tombak. C'est une sorte de gros djembé, pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte de gros djembé iranien, percussion. Ali Rostami. Ali est jeune, il a 22 ans, et il est né au milieu des Ney. Son père est artisan, il fabrique des neys au bord de la Caspienne.
Qu'est-ce qu'un ney ?
Un ney, c'est une flûte de roseau qui est très particulière à jouer. Elle se coince entre les deux incisives L'embout se coince entre les deux incisives et une des deux dents, une des deux incisives sert de sifflet. Et donc il y a un jet d'air à diriger vraiment d'une façon particulière. Moi, il m'a fallu 3 semaines d'efforts, si je puis dire, pour arriver à sortir un son. Et c'est donc, il symbolise le vent, l'esprit, c'est l'incarnation de l'esprit. Et c'est un des deux instruments sacrés utilisés dans les rituels kurdes de transe. Donc le grand daf, donc le grand tambour, avec ses petites lames de métal derrière, ses anneaux, et donc le ney. Donc Ali est un virtuose du ney, et il joue très bien aussi du doudouk. Et la cornemuse de sa région, ben, il ne va pas pouvoir l'amener dans sa valise. Mais voilà, donc Ali va nous jouer ça. Et il y a aussi Farshad Dokshar, qui est joueur de setar. Alors le setar, c'est une sorte de petite guitare, on va dire, qui ressemble plutôt au saz ou, voilà, ou au dotar. Et donc setar, ça veut dire corde. Et dotar, c'est deux cordes, et setar, c'est 3 cordes. Et une quatrième qui est rajoutée pour faire une harmonique. Et c'est, quand j'ai voulu y tâter, Farshad m'a dit, tu sais, c'est un chant de c'est un instrument de solitaire, c'est pour l'amoureux, le spleen de l'amoureux seul. Donc, j'ai dit, bon, on verra plus tard.
Le trio Tika nous transmet ou transmet leur musique. Comment ça se passe? Je voudrais savoir dans quel contexte ils arrivent à en vivre et comment ils l'apprennent, cette musique. Est-ce que ce sont des vieux chants qu'ils reprennent?
Oui, alors nous allons entendre donc mercredi soir, dans la deuxième partie avec Tika, au café Espace Andarta, deux types de chants. Donc les chants traditionnels farsi, perses, donc des chants que beaucoup de Perses connaissent, hein, c'est la langue commune à toutes les régions de Perse. Et donc pour une part, et pour une autre part, des chants vraiment mazani, qui viennent du Mazandaran, donc de cette région, comme celui que vous venez d'entendre là, que j'ai fait en début d'émission. Ces chants ont été préservés miraculeusement par Ostad Esari, c'est le grand maître de chant du Mazandaran. C'est quelqu'un qui habite dans le village de mes copains, et Gorjim Ale, c'est le village des Géorgiens, mot pour mot. Donc c'est des gens un peu à part, puisqu'il y a 350 ans, ils ont été déplacés de Géorgie pour venir peupler la frontière par les rois de Perse. Donc c'est des gens qui ont un statut, je précise, parce que c'est un statut un peu particulier en Iran. Et le maître Ostad Esari, qui est lui aussi d'origine géorgienne, pour préserver ces chants traditionnels du Mazandaran, a dû s'exiler pendant la révolution islamique en 79. Il est parti dans la montagne, dans la jungle, qui est inextricable dans certaines parties, et se cacher pendant plus de 10 ans. Parce qu'il n'aurait pas pu chanter, il n'aurait pas pu se présenter pendant 10 années avec ses chants. Et il les a donc sauvés, et c'est lui le garant de ses chants.
Et que lui reprocherait-on, le fait de s'être caché? C'était pour se préserver, pour préserver sa culture, c'est préserver sa...
Oui, c'est pour préserver la culture. D'une part, parce que la musique n'était pas autre que islamique, n'était pas possible à cette époque de la révolution iranienne. Et d'autre part, comme vous l'avez peut-être, s'il y a des Iraniens qui écoutent, vous avez pu remarquer que je parle de plusieurs fois de Khoda. Khoda, c'est Dieu pour les Iraniens. Et c'est pas Allah, c'est Khoda. Et Khoda vient, c'est même sans aucun doute, d'une souche perse, de cette première langue perse qui était dans cette région du Mazandaran Khorasan, le pays de Zarathoste, de Zarathoustra, le premier, un des prophètes qui a existé en ce monde. Et cette région qui couvrait donc le Mazandaran, le Khorasan, couvrait aussi le nord de l'Afghanistan et le nord de l'Inde. Et les Védas de l'Inde viennent des Khoda d'Iran.
Donc il y avait cette musique non islamique, comme tu dis, mais est-ce que les textes aussi sont interdits, ou il y avait quoi? Il y avait une teneur dans les textes qui ne plaisait pas au pouvoir à ce moment-là? Ou alors c'était simplement du fait que c'était, comment dire, païen ou...
Parler d'amour, de toute façon, que ce soit dans tous les régimes totalitaires, c'est jamais bien vu. On le voit à travers l'histoire et encore actuellement, l'amour passe vite aux oubliettes devant les intérêts, d'autres intérêts de puissance, de pouvoir. D'ailleurs, les gens qui veulent la puissance et le pouvoir, c'est bien parce qu'ils n'ont pas de l'amour, donc ils veulent pas en parler, ils veulent pas qu'on en parle. Donc c'est pour ça ces chants sont une allégorie à l'amour d'un homme, bon, sous forme homme-femme, mais c'est aussi l'amour de Dieu, de Khoda. Et il y a aussi ces chants de liberté. Et il y a un chant que vous allez probablement entendre dans cette interview, qui est le chant, on m'a dit dernièrement, un Iranien m'a dit dernièrement, ce chant-là, quand le peuple commence à le chanter, l'État tremble. C'est un chant qui parle juste d'un oiseau qui ouvre sa cage pour s'envoler. Mais ça parle d'amour, ça parle de liberté, et ça, l'État iranien ne voulait pas, à cette époque-là, qu'on en parle, quoi.
C'est-à-dire depuis 79 environ?
Oui, les 10 premières années de la Révolution. Après, ça s'est calmé jusqu'à l'ouverture, là, depuis 2-3 ans, 4 ans.
Comment se passe alors un quotidien, le quotidien des musiciens, ou même d'un Iranien tout simplement? Est-ce que dans la rue, on n'y trouve plus d'amour? Comment ça se passe?
Dans la rue, c'est bien difficile, hein, parce que les hommes n'ont pas le droit de regarder les femmes, et inversement, ils n'ont pas le droit de se trouver ensemble dans les lieux publics. Donc, elle est bien difficile aux amoureux de se bécoter sur des bancs publics. Et il n'y a pas de bancs, d'ailleurs. Si, il y a des bancs. Mais enfin, bon, peu importe. Donc, non, c'est... La vie d'un Iranien, déjà, c'est un pays qui est loin d'être pauvre. Hein, c'est le deuxième producteur de pétrole au monde. C'est un peu chaotique. L'Iran a deux facettes. Une vie cachée et une vie extérieure. Donc la vie extérieure, c'est comme je viens de dire, hein, de la distance, et voilà. Et la vie cachée, c'est que chaque femme de Téhéran a un amant. C'est ce qu'il est dit. Que tout le monde, beaucoup de gens chez eux ont en souvenir sur les étagères des bouteilles de Jack Daniels. Que tout le monde distille son vin et sa gnôle. Ça, c'est l'autre facette de l'Iran.
Alors, je me réfère par rapport à un film...
Persepolis,
oui, qui raconte un peu le quotidien, justement, des jeunes, hein, où les fêtes se faisaient en cachette, et puis il y avait les gardiens de la Révolution qui veillent aussi à ce qu'il n'est pas débordement, tout simplement. Mm-hmm. Mais...
Ce n'est plus le cas. Hein. Les fêtes se font bien plus ouvertement. La société de consommation a fini par percer en Iran. Le premier McDonald's est en construction à Isfahan. Les encouragements à détruire le système familial pour que chacun ait sa voiture, son frigo, et que tout soit acheté en double. La société de consommation est très bien arrivée en Iran, et c'est en train de faire des ravages, comme on a pu le connaître et comme on a du mal à s'en remettre ici.
Donc il va y avoir des disparités flagrantes dans la société qui vont arriver aussi?
Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas l'avancer. Par contre, oui, l'information qui vient de l'extérieur, qui est filtrée encore jusqu'à présent, donc il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Facebook, toutes les images qui viennent d'Europe sont censurées, enfin pour la plupart. Tout ça est en train de voler en éclats, oui.
Et le tourisme, est-ce qu'il revient
Mais se développe. Oui, se développe. Pas partout. Bon, dans la région où j'étais, il n'y avait pas eu de touristes depuis 35 ans. Donc, c'était vraiment très particulier. Mais il y a déjà des circuits touristiques pour voir les plus belles villes d'Iran, Isfahan, Téhéran, bon, en partie, et les Yazid, et les villes du sud, Shiraz. Toutes ces villes-là, oui, il y a un circuit. C'est pas pour rien que le McDonald's s'installe à Isfahan, hein, c'est parce que le tourisme arrive, quoi.
Alors, tu avais commencé l'émission tout à l'heure avec un chant et tu désirais y donner la traduction là, pendant l'interview.
Oui.
Et ça pourrait nous donner une idée de ce qui était interdit, hein, fut un temps, par le pouvoir en place.
Oui, eh bien je vais vous traduire ce chant qui s'appelle... C'est un chant traditionnel du Mazani, du Mazandaran, qui est en deux parties. Les constructions... Les pièces musicales en Iran sont en deux parties. La première, on l'appelle la avaz, c'est une démonstration des qualités du chanteur, où il va chanter sans tempo, une sorte d'introduction au chant. C'est ce que chez les Turcs, on a appelé zikr. Zikr. Et la deuxième partie, c'est le tasnif. Donc les musiciens rejoignent le chanteur, le rythme s'installe, les autres musiciens reprennent le refrain. Donc le Havas, donc la première partie disait « Sanem, sur la butte j'étais un daim. Fier, tu ne me demandes pas comment je vais. Pourquoi as-tu toujours tant d'amoureux? Mais je fus ton grand amour. Sanem, j'ai eu un amour troublé. Dieu, aide-moi. Une fleur et de nombreux jardiniers. Dieu, aide-moi. » Puis le tasnif se développe. Et donc la deuxième partie, c'est le printemps, tout est en fleurs, et je ne veux pas mourir. L'été est le temps pour travailler, et je ne veux pas mourir. À l'automne, je dois récolter et préserver ma nourriture, et je ne veux pas mourir. L'hiver est le temps de la pluie et de la neige, je ne veux pas mourir. Les champs de coton sont durs cette année. La binette est entre les mains de mon amoureuse. Hé, hey, binette, que Dieu te brise. Mon amoureuse est novice au chant et elle est fatiguée. Père et mère sont importants pour nous. Frère est le fruit de mon jardin. L'amitié a beaucoup de valeur, car au final, nous finissons tous en terre.
Merci. Donc, je reviens à la rue. Je voudrais savoir, est-ce que, sans comparer, qu'est-ce qu'on pourrait différencier tout de suite entre une rue de Die, par exemple, et une rue d'une ville d'Iran?
Alors, la rue de Die est étroite. Les rues iraniennes sont très larges. Il y a des voitures de partout. Des Honda 125 de partout. Un vacarme pas possible. Une pollution très importante en Iran. Et plein de petits commerces. Et souvent, les artisans, les commerçants dorment dans leur commerce. Il y a une sorte de mezzanine, on va dire, où les artisans dorment. Ils travaillent tous les jours. Voilà, toutes les familles se promènent en moto, pour la plupart. Donc, quand ils ont un peu plus d'argent, en voiture. Voilà.
Et est-ce qu'on y entend un peu de musique?
Dans les rues, non.
Non, non, on n'entend pas. Il n'y a pas ce bruit.
Il y a ce côté extérieur où il ne doit pas y avoir de musique.
Voilà, ça c'est une partie visible qui est censurée quelque part.
Ouais.
Et alors, ces musiciens, tu disais que tu aurais peut-être un extrait à nous proposer à écouter de ce qu'ils font.
Alors, j'ai pas d'extrait de ce qu'ils font. Vous pouvez trouver sur YouTube.
Oui.
Si vous allez sur YouTube, que vous allez sur ma chaîne YouTube, donc Yannick, Yannick, Loyer, Loyer, vous allez trouver plusieurs vidéos de Tika, de Gamal, et voilà, de mes activités. Mais donc, il y a 4 vidéos des copains de Tika.
Est-ce que ce sont des compositions de leur part? Ou des réinterprétations peut-être ?
Non, ce sont vraiment des chants traditionnels.
Qui sont transmises oralement sont, voilà. Et par la pratique uniquement, par
voilà.
Exemple.
Oui. Oui, il y aura par contre dans le spectacle quelques morceaux que nous chantons ensemble, Mazer et moi, dans la deuxième partie, notamment un chant qui, pour la première fois, a trouvé sa traduction en français. C'est un chant, c'est un poème, une ode mystique de Maulana, c'est-à-dire Rumi, comme on l'appelle ici. Le grand maître fondateur de l'ordre des derviches tourneurs. Et il disait qu'il n'avait qu'un seul maître, c'est Shams de Tabriz. Shams qui veut dire soleil. Et Shams, c'était aussi, dans le zoroastrisme, c'est le dieu. Et donc il disait qu'il avait un seul maître, c'était Shams. Il a écrit des odes mystiques qui sont des belles histoires d'amour, d'un homme pour un homme, d'amitié, d'amour, d'amitié, quoi. Et donc, il y a un très beau chant qui s'appelle Manoto, enfin une très belle ode qui s'appelle Manoto, qu'une amie chanteuse m'avait donné 2-3 couplets, sans traduction. Avec Maziar, on a trouvé des traductions. Enfin, non, on a trouvé les autres couplets. Il a pu me les chanter avec la bonne mélodie. Et j'ai trouvé dans un livre qui est paru il n'y a pas longtemps la traduction pour la première fois de cette ode. Mais il manquait un couplet. Donc on a rajouté avec Maziar ce dernier couplet, le 8e couplet de cette ode mystique que nous vous chanterons probablement en finale ou à un moment ou à un autre, c'est eux qui dirigent leur concert, donc de Tika, mercredi soir au Café Andarta, a dit.
Une question comme ça, parce que tu parles souvent de Dieu dans cette culture un peu. D'après toi, pourquoi cette place de Dieu a tant d'importance dans cette société iranienne?
Parce que, enfin, d'après moi, les premières traces de monothéisme, donc à la souche de notre culture, viennent de là-bas. C'est les rois mages qui sont venus apporter plein de bonnes choses à Jésus. Ben les mages, c'est une tribu perse. Et Dieu n'a pas tant d'importance. Enfin, on parle moins de Dieu en Iran qu'on en parle au Maroc, par exemple, ou qu'aux États-Unis. Oh, on pourra en parler longtemps. C'est parce que c'est vraiment une vision très particulière de la divinité.
Et en dehors de ça, dans cette vie parallèle, cette existence parallèle, il y a quand même des possibilités de contact avec des femmes et des hommes quand même.
En Iran ?
Oui.
Non.
Par exemple, lors de ton voyage, est-ce que tu as pu converser avec une femme, même en secret ou en cachette quelque
ah oui.
part ?
Mais à la maison, tout est possible, il n'y a pas besoin de se cacher du moment que c'est dans une maison. Là, l'important, c'est que ça ne se fasse pas à l'extérieur. Mais après, je vois la famille à Maziar, il a 2 sœurs, une mère. Très rapidement, le deuxième jour, elles n'avaient plus le foulard sur la tête et elles me parlaient ouvertement. Et oui, d'une façon très, très ouverte, quoi.
Il y a quand même une pudeur, quelque part. Puisque tu me dis qu'au bout de 2 jours, elles ont enlevé leur foulard.
Bah, parce que c'est une culture, quoi. Hein, quand il y a 35 ans d'islamisme, et bah, la mère de Maziar, quand elle sort, elle est irreconnaissable parce qu'elle est habillée tout en noir. On voit que le bout de son nez, si on voit la bouche quand même, et puis les yeux, mais elle est habillée tout en noir, il faut que rien ne dépasse, avec des souliers noirs, comme la plupart des femmes en Iran. Et chez elle, elle a à peine le foulard sur les cheveux. Des fois, je rentrais dans la pièce, elle était en train de se recoiffer, elle n'était pas plus gênée que ça. Il n'y a pas de souci. Ça s'ouvre aussi de ce côté-là à Téhéran. Téhéran, il y a un concours chez les femmes de celle qui va mettre le foulard le plus loin derrière. Donc il tient à présent sur le bout du chignon pour les plus audacieuses et on voit à 90% la chevelure. Hein. C'est vraiment en train de changer très vite. On change beaucoup plus vite d'habitude en Iran en ce moment qu'en France.
Je pense qu'on a fini cette interview. Tu veux peut-être nous refaire un chant pour conclure ?
Avec plaisir, oui.
Tout à fait. Et est-ce qu'il peut se situer par rapport au trio ? Est-ce que ce sera peut-être un chant qu'il pourrait nous interpréter aussi ?
Bien sûr, c'est un chant qu'ils vont interpréter. C'est le chant « Je vais vous faire un Morre Sahar », ce chant que nous chantons déjà dans le duo Gamal, puisque Maziar me l'a appris dernièrement et nous le chantons comme chant iranien de référence. Dans notre duo autour de la naissance des spiritualités au niveau de la Mésopotamie, Gamal. Donc ce chant, Morre Sahar, veut dire oiseau du matin. Alors zut, j'ai pas la traduction là, mais voilà, ça parle d'une liberté à conquérir, et le chant se finit par l'ouverture de la cage et l'oiseau qui s'envole, qui est devenu libre.
Et pour t'accompagner, tu vas utiliser cet instrument qui se trouve à côté de toi.
Oui, ma shruti.
Que moi j'appellerais naïvement un guide chant, mais oui. Donc toi tu appelles ça.
Mais c'est un guide chant, hein.
Oui, oui.
Et j'appelle ça. Alors son nom c'est Shruti Box, et ça vient d'Inde. C'est pour accompagner le chanteur. Et moi je l'appelle Shruti. C'est son petit nom à moi parce que je l'emmène partout. Alors elle a cette particularité d'être en 432 Hz, n'est pas le 440 Hz.
Qui avait été instauré par les nazis.
Voilà. Hein, voilà. Donc c'est un 432 Hz. Et étonnamment, quand je vais, dans mon travail d'ethnomusicologue, dans les minorités réfugiées, de plus en plus, c'est ce que je fais quand je pars en voyage, chez les Tchétchènes, 432 Hz. Et chez les Yézidis, réfugiés en Arménie, 432 Hz. En Iran, 432 Hz. Et j'ai même fait le bœuf avec les bardes turkmènes pour sauvegarder le phoque de la Caspienne, 432 Hz. Donc voilà, Shruti, que je vais passer en mi et en si, pour avoir un accord à la quinte. Voilà. Donc,
ce que je te propose, c'est qu'on se dise au revoir maintenant, à mercredi soir à 20h30.
Avec plaisir. Merci Yves de ton interview. Merci beaucoup.
Allez, on t'écoute.
À bientôt.
Au revoir.
Morre Sahar.
Morre Sahar nale sarko dağım maro toze torko zahe şarar bar in rafaz ra bar şekan uzi roze barko dobale par baste ze ponje rafaz daro نرمه آزادی نوع بشر سرا و از نفسی عرصه این خاک تو درا پر شرار کن ظلم ظلم جار سیار قاشیم نم داد بر بود هی خدا هی فلک هی طبیعت شام تاریک ما را سر نو به هار هست گل به بار هست عبر چشمن جال بار هست این رفست چون دلم تنگ و تار هست ش chole fekandara fase yo e otashi daste tabia dole omre maro mashi jone me osher negahe hai bezol azin bishtar kon bishtar kon بیشتر کن مرغ بی دل شرح هجران مختصر مختصر کن مرغ بی دل شرح هجران مختصر مختصر کن